Bon après-midi à vous tous et à vous toutes. J'aime beaucoup la thématique du culte d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous arrêtez un peu au lien qu'il y a entre les différents éléments du culte. Je suis toujours impressionné, je ne sais pas qui le fait là, mais par la personne qui choisit la lecture biblique d'entrée de scène, par les cantiques, par la lecture biblique qui accourt par la suite, à quel point il y a une thématique qui se dégage et qui vient à partir du message. Moi, je prépare mon message de Québec et le fond de Montréal, et l'Esprit-Saint, semble-t-il, a une bonne direction dans cette perspective-là. C'était très bien pour les psaumes de louange, au passage. Les psaumes de pénitence, qui sont des psaumes très importants. Vous savez, on dit que lorsqu'Augustin est décédé, il avait fait écrire sur les murs de sa chambre tous les psaumes de pénitence. Et les psaumes de pénitence, ça, c'est pas misérabilis, là, vous savez. Ça ne veut pas dire qu'on tombe dans la misère et qu'on est en déprime, bien au contraire. C'est une manifestation d'humilité. J'apprécie également la prière de notre frère Fadi. Seigneur, garde-nous humbles de cœur. Hein? C'est par là que ça se passe et le reste de notre être suit. Alors, j'apprécie beaucoup l'œuvre que le Seigneur fait encore une fois parmi nous aujourd'hui, qu'il puisse toucher nos cœurs, alors qu'on va sonder sa parole, comme je partageais avec Christian avant, lorsqu'on priait avant le culte, qui est toujours toute simple. On a toujours l'impression de répéter les mêmes choses, un peu comme Paul qui disait « Je vous répète les mêmes choses, cela vous est salutaire. » D'abord parce que nous sommes des auditeurs oublieux et parce que dans la répétition, il y a des éléments nouveaux qu'on saisit et qu'on met davantage sur notre route pour les accomplir. Il me semble que j'avais autre chose à vous dire, mais je l'ai oublié. On va donc passer à la prédication, c'est le but de l'exercice. Hein? Alors, nous allons ouvrir la parole du Seigneur, si vous le voulez bien, dans l'Apocalypse. Vous savez vraisemblablement où on est rendu, au rythme où on va, on a le temps de garder le pas. Hein? Au deux ou trois semaines, on fait un message là-dessus. Alors, nous entamons aujourd'hui le chapitre 3. Nous lirons les versets 1 à 6. Et quel est le thème? Ça va un peu avec la pénitence, hein? C'est la vigilance. La vigilance, un passage obligé. Ce n'est pas négociable, la vigilance pour les chrétiens. Donc, je lis à partir de la seconde, je ne sais pas trop quelle année, 1979, je pense. Voilà. Parole de notre Dieu. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant moi. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Notre Père, nous sommes devant toi et le caractère impératif du ministère de ton Esprit Saint va de soi. Que tu viennes nous aider, Seigneur, à saisir cette parole, à non seulement l'entendre, à l'écouter, non seulement à comprendre superficiellement la grammaire, mais aussi au Seigneur à le recevoir comme une nourriture pour nos âmes, et comme il était mentionné dans la prière d'André aussi, Seigneur, une sonde, que tu nous interpelles, en effet, pour nous rendre toujours davantage dans ton œuvre de transformation de nos vies à l'image du Seigneur Jésus-Christ, c'est là notre prière, et pour ta gloire. Amen. Vous Vous avez sans doute remarqué, du moins je l'espère bien, que dans nos milieux, nous prêchons de manière expositoire. Il y en a que ça fatigue un peu. Il y en a qui voudraient qu'on soit des... comment tu as dit ça, les sensitive, les quoi, là, les... Secret sensitive, that's right. On n'est pas cela. On n'est pas des gens qui prêchons, là, selon, voici le besoin du jour, je vais trouver un texte qui va avec, hein? Je me souviens, dans les premières années de mon ministère, c'était un cauchemar toute la semaine. « Seigneur, que veux-tu que je prêche dimanche? » Alors, le lundi passait, « Mais Seigneur, que veux-tu que je prêche dimanche? » On était rendu au mercredi, « Mais Seigneur, que veux-tu que je prêche dimanche? » C'est le samedi matin, « Seigneur, que veux-tu que je prêche demain? » Et là, c'était la panique, la haute pression et tout ce qui va avec. Un jour, un de mes amis, Dr. Amar Djabella, que peut-être certains connaissent peut-être, a donné une illustration qui m'a beaucoup aidé. Le Seigneur dit à Adam et Ève, « Vous pouvez manger de tous les arbres du jardin. » Ah bon? C'est beaucoup d'arbres, hein? De tous les fruits du jardin. Alors, l'heure du repas vient et Ève, qui en était revenue à la soumission, après la gaffe, n'est-ce pas, dit à son mari, « Qu'est-ce que je devrais faire pour le repas? » Ben, tu vas aller demander à Dieu, hein? Alors, il passe la journée à demander à Dieu qu'est-ce qu'Ève devrait me cuisiner pour le repas. Dieu n'a jamais répondu, il leur avait dit. Vous pouvez manger de tous les arbres du jardin. Nous exposons une parole comme elle nous a été révélée. Dieu ne nous a pas révélé ça, passez-moi l'expression, par pieces and bits. Hein, il nous a révélé ça de manière surnaturelle et tout à fait convenable à nos besoins. Et c'est comme ça que nous exposons la parole que nous considérons être tout le conseil de Dieu. Bien sûr, lorsqu'on fait de la relation d'aide, on va choisir des textes appliqués à une situation précise. Il peut arriver également, même que dans la prédication, dans une situation particulière, on fasse des petites tangentes là et qu'on adresse un cas en particulier. Mais de façon générale, nous exposons la parole selon ce que nous croyons être. J'ai toujours eu une tendance personnelle dans mon ministère à passer, premièrement, un livre de l'Ancien, un livre du Nouveau, un livre de l'Ancien, un livre du Nouveau, si faire se peut, un livre également un peu plus théologique, ensuite un livre dit plus pratique, que tous les livres sont pratiques, puis tous les livres sont théologiques, mais on s'entend, pour avoir cet équilibre dans la révélation de notre Dieu. Ça me semble être le guide pour prêcher des textes, le guide par excellence. Maintenant, on ne s'attend jamais à faire l'unanimité, hein? Le Seigneur ne l'a pas fait, on ne l'a fait pas plus que lui. Nous sommes ses disciples. Nous sommes toujours à l'écoute de ce que le Saint-Esprit nous dit, de ce que le Saint-Esprit dit aux églises. Hein, la parole ne nous dit pas que celui qui a des oreilles pour entendre ce que Raymond Perron va dire aujourd'hui. Hein? C'est le Saint-Esprit qui parle aux églises. Hein? Alors, nous sommes toujours à l'écoute de ce que le Saint-Esprit dit aux églises, parce que ces messages-là sont autant pour aujourd'hui qu'ils l'étaient pour l'époque. Les églises se composent de gens de même nature, de la nature humaine, et la nature humaine, elle, ne change pas. Il ne faut donc pas considérer ces lettres-là qu'on considère comme des reliques anciennes, mais plutôt comme des miroirs dans lesquels nous allons nous regarder, dans lesquels nous nous regardons. J'espère que les églises qu'on a vues jusqu'à maintenant, les sept lettres, enfin les quelques lettres qu'on a vues jusqu'à maintenant, nous ont aidés à faire un peu de lumière dans nos vies. Lorsque nous arrivons à Sardes, nous avons de fort belles leçons à tirer de son vécu, de la ville elle-même d'abord. Sardes était située auprès d'un mont. Pour ceux qui s'intéressent, c'est le mont Timulus. Et la cité occupait un emplacement privilégié sur un plateau. Elle était pratiquement entourée d'un fleuve qui avait creusé une très large gorge tout au long, de sorte qu'elle n'était pas accessible, vous voyez, sinon que par un seul côté. Alors, on mettait uniquement des gardes là où c'était nécessaire, vers le devant. Hein? Pourtant, bien sûr que Sardes se sentait en sécurité, ça ne l'a pas empêché d'être saisi, le mot ne vient pas, d'être envahi, voilà le mot, à deux reprises. La première fois par les Perses, vous savez qui était le grand patron de Sardes à ce moment-là, c'est un monsieur qui était assez en moyen, c'est l'inventeur de la monnaie, Crésus, voilà. Alors, Crésus régnait effectivement sur Sardes à ce moment-là. Il roulait dans l'or, le terme s'applique, mais voilà qu'ils se sont fait saisir, on s'est emparé d'eux. Et la même chose s'est produite un tout petit peu plus tard, au 3e siècle, avec Alexandre le Grand. Et les deux, étonnamment, ont utilisé la même stratégie. Un jour, les gardes se promenaient et il y a un garde qui perd son casque et le casque tombe dans une de ces gorges-là, vous voyez. Alors là, les soldats, Perse était en bas et examinait ce qui se passait là-haut. Alors le soldat descend pour aller chercher son casque, part d'un petit sentier très, très tortueux et sinueux, et il prend son casque et on dit, c'est par là que ça se passe. Alors c'est par là que l'armée est montée, qui se sont emparés finalement de la ville de Sardes. Intéressant. Pour dire que la vigilance a toujours sa place. La vigilance, c'est un passage obligé. La fausse sécurité par nos propres moyens, ayant une bonne apparence, mais elle n'est pas sans avoir de grandes failles. Et c'était aussi le cas pour l'Église de Sardes. C'est pour ça que je mentionnais un peu cette historique-là. Parce que le péché, vous savez, le péché, c'est une main de fer. On s'entend là-dessus, hein? C'est pas une main de tout en douceur, c'est une main de fer. Et on est incapable, par nos propres forces, de nous libérer de son étau. La Bible ne définit pas le péché comme étant simplement de mauvais choix, ce qu'on fait nous-mêmes souvent. Ah, ils ont fait de mauvais choix. Non, la Bible, c'est beaucoup plus que de mauvais choix, mais c'est une puissance qui règne et qui détruit. Il n'y a personne qui a été construit par le péché. C'est une puissance qui règne et qui détruit. Et le pire dans tout cela, c'est que le péché engourdit. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de lire John Owen sur la tentation, c'est chef-d'œuvresque, hein? Il fait une très, très belle analyse, la tentation, et on se reconnaît beaucoup dans ses propos. Le péché, donc, engourdit, insensibilise l'âme, aveugle les yeux du cœur, de sorte que très souvent de fois, le pécheur périt en se sentant tout à fait bien avec lui-même. Pour reprendre une expression familière, le cœur du péché, c'est le péché dans le cœur. En d'autres mots, notre agir, c'est inside out. Ça commence de l'intérieur et ça se ramifie ensuite à l'extérieur. C'est la même chose pour la sainteté. La bouche parle de l'abondance du cœur. Hein? C'est littéralement inside out. Pour employer une expression bien connue. Nos péchés actuels ne sont que le fruit du péché originel. Et encore une fois, on ne réalise pas la profondeur du péché originel. Mais tous nos péchés actuels ne font que trouver leur source dans le péché originel. Donc, mon premier point aujourd'hui, c'est la mort d'une Église. On ne restera pas là quand même, hein? Mon deuxième point, ça va être la résurrection d'une Église. Ah, ben voilà. Et mon troisième point, je ne me souviens plus. Ah, la bénédiction, les vêtements d'une Église, voilà. Donc, la mort d'une Église d'abord. Notre frère Daniel Bégin, j'espère que vous avez apprécié son message la semaine dernière, nous a apporté un message intéressant sur le figuier stérile. Et un figuier plein de feuilles, un figuier plein de promesses, hein, quand on le regardait là, un figuier plein de tape à l'œil qui donnait l'impression qu'il regorgeait de figues, mais lorsque Jésus s'en approche, il n'y avait strictement rien dedans. Alors, c'était uniquement du tape à l'œil. Et les apparences, on le sait, sont très souvent trompeuses. Ce figuier-là était, selon l'interprétation du Christ Jésus, tout simplement stérile. Jusqu'à maintenant, dans les lettres aux autres églises, on a vu qu'en dépit de leurs fautes, le Seigneur reconnaît toujours de bonnes affaires, de bons éléments dans ces églises-là. Tu vois ceci, par contre, j'ai vu cela, puis c'était bien, j'ai vu tes œuvres, j'ai vu ta persévérance, hein, et le Seigneur leur envoie quelques fleurs, et ensuite le pot arrive, comme on dit souvent chez nous. Donc, il reconnaît toujours des choses de bonnes. Que trouve-t-il à recommander à l'église de Sardes? Strictement rien. Strictement rien. C'est la seule église où il n'a strictement rien à recommander à l'église de Sardes. Aucune recommandation. Le seul bon qu'il trouve chez elle, c'est une réputation qui n'a même pas un fondement. Il y n'y a pas de recommandation pour l'Église de Sardes. Le Seigneur ne pointe aucun problème à régler. Aucun problème doctrinal qui exigerait correction. Il n'y a pas non plus de mention d'opposition ou de persécution. Pourquoi? Elle est morte. Il aurait été préférable pour cette Église-là d'avoir quelques tribulations plutôt que de croître contente d'elle-même, n'est-ce pas? Confortable, vivant une réputation passée. On expérimente une grande paix à Sardes. Mais c'est la paix du cimetière. Hein? Lorsque j'étais à Vision mondiale, à Mississauga, on nous rappelait les quatre étapes d'une organisation. Vous devez vraisemblablement être au courant de cela. Il y a quatre étapes dans toutes les organisations, même on voit ça dans les grands magasins, dans les industries. Et ça vaut pour l'Église locale, qui est aussi une organisation. L'Église universelle, on change de mouvance, là. Hein, c'est le Christ qui l'a bâti, mais nos églises locales sont des organisations. Alors, on nous enseignait à Vision mondiale, dans World Vision, pour le dire dans son terme initial, les quatre étapes. D'abord, il y a un homme avec une vision qui se dit, ce serait bien si on avait ceci. Ça, c'est la première étape, la vision de la personne. Là, elle commence à mettre en mouvement sa vision, vous voyez, on fait les premiers pas, on commence à avoir des démarches, ça c'est la deuxième étape. Ah ben voilà, la vision est maintenant en mouvement. On commence à se structurer, ça s'en va accroissant, et là ça devient très efficace, ça roule à plein régime, ça devient une machine. Et une machine, ça roule, ça produit, et ça grossit. Et quatrième étape, ça devient un monument. C'est beau un monument. C'est impressionnant un monument, mais c'est statique. Il n'y a plus rien à faire avec un monument. En quelque part, je ne dis pas que Sardes était un monument, mais Sardes était devenu lui-même statique dans cette quatrième étape-là. Le verdict du Christ est d'une brièveté dévastatrice. Tu es vivante de nom, mais dans les faits, tu es morte. Et c'est le verdict de celui qui a les sept esprits de Dieu. Pas une rumeur. Ce n'est pas une parole à la légère. C'est celui qui a les sept esprits de Dieu qui prononce ce verdict-là. Tu es morte. Le verdict divin. Il a les sept esprits de Dieu et il a les sept étoiles. Il y a toutes les églises dans sa main, tous les serviteurs des églises dans sa main. Je connais mes églises. Je sais tout ce qui se passe. Je vois tout. Et toi, tu es morte. Il ne faut pas se laisser tromper. Sardes n'est pas ce que le monde appellerait une église morte. Hein, les gens devaient être fidèles à leur église, ils devaient avoir des belles rencontres, des ministères de personnes âgées, des ministères de personnes encore plus âgées, puis des ministères encore plus âgés, puis d'autres un peu plus jeunes, puis d'autres ci, puis d'autres cela. Une église vraisemblablement active, de sorte que les gens disent « Wow, c'est quoi ta church? Hein? Une bonne église! » Et même vraisemblablement, les autres églises autour devaient dire « Wow, hey, c'est à imiter ça, ils bougent eux autres, il se passe quelque chose là, comme on aime à dire. » Il ne faut pas se tromper. On devait dire d'elle qu'elle était une église en santé, vivante, vibrante même. Mais ce n'était qu'un christianisme nominal de nom. Pour reprendre des propos de Paul en 2 Timothée 3-4, elle avait l'apparence, hein, les apparences sont trompeuses, la fille est stérile. Elle avait l'apparence de la piété, mais elle reniait ce qui en fait la force. Une église morte, c'est un paradoxe, hein? Une église morte, c'est un oxymore. Ça n'existe pas, une église morte. Une église, par définition, c'est la vie du Christ qui se manifeste en elle. On peut certainement... Comment est-ce qu'une église peut mourir? Tiens, c'est une bonne question. On peut certainement suggérer 3 explications pour la mort de l'Église de Sardes. Et comme le dit 1 Corinthiens chapitre 10, versets 11 et 12 que je vous lis, « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, ainsi donc que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. » C'est une belle mise en garde qui nous est faite lorsqu'on approche un texte biblique comme celui-là. « Premièrement, Sardes, on l'a dit, s'est vu renverser à deux reprises en raison de son manque de surveillance de ses ennemis. Il en va de même pour l'Église. Rappelons-nous, à Gethsémané, Jésus de dire à ses trois disciples, « Vous n'avez donc veillé une heure avec moi? » On sait que c'est après le repas, on sait qu'on est dans les derniers moments, le Seigneur s'en va prier à Gethsémané avec ses trois disciples les plus près de lui, veiller et prier. Pendant qu'il va prier, il revient et les trois sont endormis. « Vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi? » Matthieu 26, 40. L'Église, dans le plus grand respect des autres assemblées avec lesquelles on peut avoir certaines divergences de vue, se doit de veiller à conserver ce que nous avons reçu comme vérité. Ça ne veut pas dire qu'on devient étroit d'esprit et fermé aux autres. Mais nous avons des vérités que nous croyons très importantes et qui font en sorte qu'elles représentent notre communauté de foi. Et on y tient à ces vérités-là. On croit vraiment que c'est la manière dont Dieu s'est révélé. C'est la raison pour laquelle nous avons une confession de foi assez élaborée. Certains ne sont pas toujours d'accord avec notre confession de foi, mais elle est plus élaborée que la moyenne parce qu'elle est synthétique. Elle est la synthèse de ce que nous percevons de la parole de Dieu qui nous a été donnée. Vous voyez? On sait que l'Église, comme le monde, opère de manière dialectique. Vous savez, c'est quoi la dialectique? Thèse, antithèse, synthèse, hein? Argumentant maladroitement, effectivement, sur la thèse, l'antithèse et la synthèse. Il y a une décennie ou deux, les Églises étaient hermétiques. Souvenez-vous de cela, ceux qui, de vieux chrétiens comme moi, là, du siècle dernier, je me souviens quand on venait, puis on appartenait à une Église, puis à une dénomination, et c'était étroit, là. Hein, on ne considérait pas les autres comme des ennemis, mais tout proches, là. C'était extrêmement fermé. Et on ressentait vraiment un besoin d'ouvrir. Aujourd'hui, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est fin. La doctrine n'a plus d'espèce d'importance. Hein. Tout est beau, tout est bien, tout est correct, pourvu qu'on parle de Jésus. Et ça, ça a donné, en tout cas, je n'embarquerai pas là-dedans parce que je pourrais aller assez loin, mais ça a donné lieu à une banalisation de l'Église locale, à mon avis. En tout cas, c'est autre chose. Une Église doit donc veiller jalousement sur son enseignement. Regardez les grandes universités de ce monde qui ont si bien commencé, plusieurs d'entre elles aux États-Unis ont commencé. Pourquoi? On les a instituées pour former des pasteurs. Elles sont devenues maintenant de très, très grandes universités mondiales et la plupart sont ultralibérales, pour ne pas dire athées. Premièrement, donc, voilà, le besoin de veiller sur notre enseignement. Deuxièmement, une Église comme Sardes peut mourir en se reposant sur sa réputation, sur sa tradition, sur son héritage, tout en négligeant sa vitalité spirituelle. Pensez-vous qu'une Église qui confesse la vénérable 1689 peut mourir? Bien sûr. 1689 peut nous servir d'épitaphe, vous savez. D'ailleurs, c'est le 1677, comme vous le savez de toute manière, était écrit en 1677. La 1689, la synthèse de la Bible, quelques confessions de foi que nous ayons, ne sauvera jamais personne, même à titre de synthèse biblique, si elle ne génère pas par l'esprit une vitalité essentielle. Le demi-frère du Seigneur Jésus, Jacques, d'écrire, chapitre 4, versets 8 à 10, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Ça, c'est un beau mot, irrésolu, dipsouché. Littéralement, ça veut dire « homme à deux âmes hein, ». L'âme n'est pas complètement pour Dieu. Une âme dans le monde, une âme pour Dieu. C'est ce que veut dire le mot irrésolu, dipsouché, en grec. « Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous donc devant le Seigneur et il vous élèvera. Seigneur, donne-nous une humilité de cœur, hein, comme disait notre frère. Troisièmement, une Église meurt en poursuivant des choses vaines et vides. Les pharisiens, là, ils n'étaient pas là à rien faire. Merci Seigneur que nous les pharisiens, à bien des égards, qui nous ont gardé l'Écriture sainte, c'était quand même les séparés, les chassidiques de l'époque. Hein? Mais Il s'arrêtait sur les petits détails. Ah, il faut jeûner le mardi, puis le jeudi, il faut avoir un verset collé dans le front, un autre. Vous voyez, vous savez, vous connaissez un petit peu les rites pharisaïques. On peut mourir en poursuivant des choses vaines. Et si je fais référence au fondamentalisme, aïe aïe, c'est un beau mot ça, vous savez, avant le fondamentalisme, hein? Il y a plusieurs années, ça voulait dire ceux qui ont gardé le fondement, à l'époque des libéraux, du libéralisme de l'époque avant Barthes et compagnie. Bon, maintenant, c'est devenu un terme un petit peu dérisoire, hein? On confond ça maintenant avec les légalistes, les gens qui s'arrêtent sur des petits détails. Mais s'arrêter à des petits détails secondaires et en faire un plat, c'est une bonne façon de tuer une église. Combien de divisions ont eu cours sur des détails insignifiants? L'apôtre Paul de dire aux Colossiens, chapitre 2, verset 23, « Ils ont en vérité une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps. Mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. » C'est un symptôme pharisaïque que de se laisser étouffer par les adiaphoriques. Je parle ici de ces petites doctrines secondaires, mais ça peut être n'importe quoi, vous savez. Ça peut être bien d'autres choses, les finances de l'Église, le programme musical, les ministères, les facilités physiques, etc., etc. Lorsqu'on vient mettre ça au centre, on peut risquer de tuer véritablement ce qu'est une Église. La substance d'une Église doit être l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ et la vie qui en découle. On n'est pas indifférent au reste, ça va de soi. Mais on concentre sur l'essentiel, et si on a des petits dadas, on n'en fait pas un plat. Mon deuxième point, la résurrection d'une église. La ville de Sardes est tombée deux fois sous l'épée. Quant à son église, elle a sombré sous la complaisance. Chaque église a son histoire, chaque église a son combat. La très grande majorité d'entre vous n'y étiez pas, mais c'est notre troisième essai d'implantation de cette église réformée baptiste de la Trinité, vous savez. Le seul qui reste depuis le début, je pense que c'est Christian et Pamela, hein? Vous étiez là au tout début. C'est pas parce qu'on n'avait pas des gens bien formé. On a eu toutes les sortes. On a eu quelques docteurs, on a eu des maîtres, on a eu d'autres, toutes les sortes. Des gens académiquement très qualifiés, très capables, mais pour différentes raisons, les choses ont tourné au vinaigre. Et je ne veux pas faire un procès d'intention à qui que ce soit, mais le fait demeure, c'est que ce sont des éléments qui n'ont pas plu au Seigneur pour la poursuite de cette Église-là. Et à chaque fois, qu'est-ce qu'on faisait? Quand la catastrophe se produisait, on me sortait des boulamites et on me ramenait comme pasteur ici. C'est pour ça que je suis encore là aujourd'hui. Il faut bien garder à l'esprit qu'aucun programme d'homme ne peut donner une vie à l'Église. Pas plus qu'un cirque ne peut ressusciter un cadavre. L'Église est née de la descente de l'Esprit de Dieu à la Pentecôte. Sa vie vient de l'Esprit de Dieu. Le texte d'aujourd'hui ne se contente pas de nous dire comment une Église meurt, mais il nous indique aussi comment une Église peut revenir à la vie, vivre une situation de réveil. On y retrouve quatre éléments. Au verset 2 et 3. « Sois vigilant, affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. » Même si elle est perçue de l'extérieur comme une église florissante, une église active, une église à succès. Le message qu'il reçoit est tout autre. Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites. C'est étrange, hein, comme expression. Le Seigneur qui nous dit, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites. Est-ce que quelqu'un ici peut lever la main et dire, moi je sais que le Seigneur trouve mes œuvres parfaites? Personne, hein? Littéralement, Enfin, c'est le verbe pléro, ici, dans le grec. Je n'ai pas trouvé tes œuvres complètes devant mon Dieu. En simple, ces œuvres-là ne sont pas à la hauteur des attentes divines. Et je ne crois pas que ce soit une question de qualité d'œuvre, mais de motivation derrière l'œuvre. Les œuvres, ce n'est pas une fin en soi, vous savez. Il y a des sectes qui sont pleins d'œuvres, qui en font infiniment plus que les chrétiens. Il y a des non-chrétiens qui sont infiniment plus zélés que nous, on peut l'être. Hein? Et voilà. Mais ce ne sont pas des œuvres qui plaisent à Dieu, qui sont acceptables à Dieu. Et le message ne peut être plus direct. Réveille-toi. Hein? Matthieu 24, versets 43 à 44. Sachez-le bien. On l'a lu ce matin. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait percer sa maison, ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Et c'est ce qu'il nous est dit aussi au verset 3. Lorsqu'on se rappelle le message à l'église de Smyrne, ça fait pas si longtemps que cela quand même, hein, on comprend ce que veut dire l'expression complète, l'expression parfaite. À Smyrne, c'était autre chose, hein. Smyrne était exposé aux difficultés, aux tribulations, à la persécution. À quoi était exposé Sardes? À la complaisance. Il y a une grande, grande différence dans l'action, dans la posture de Sardes et la posture de Smyrne. À Sardes, on reste un peu à l'écart. On demeure abrité. On ne, possiblement l'expression anglaise, on ne se commet pas. We do not commit ourselves. Hein? On reste à l'abri. On ne veut pas déranger, on ne va pas prendre de risques. Matthieu chapitre 10, verset 32, « C'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux, mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » C'est applicable ça ici. « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Ça ne parle pas toujours d'une guerre ouverte, mais certainement, ça parle d'une hostilité, d'où la nécessité d'être vigilant. Deuxièmement, affermis le reste qui est prêt de mourir. Bon, après tout ce qui a été dit précédemment, nous retrouvons ce qu'on appelle généralement la théologie du reste, the remnant, hein, la théologie du reste. Verset 4. « Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. » Les pauvres devaient trouver les journées longues. Et les cultes aussi, hein, à travers toute cette multitude de cadavres spirituels. Ils vivaient sans doute sous une grande pression, une grande tristesse, et eux-mêmes devaient, jusqu'à un certain point, avoir été affectés. Ils sont appelés ici à s'affermir, et la vie va suivre la vie. La vitalité dans la vie chrétienne, c'est contagieux. Il y a quelques années, à notre petite assemblée de Rouyn-Noranda, composée d'une phalanginette, je ne sais pas si je peux trouver un mot pour qualifier quelque chose de plus petit, là, une très petite phalangine de personnes expérimentait une très, très longue stagnation. Et sous la responsabilité du pasteur Marcel Longchamp, puis quelques-uns l'ont rencontré, ils ont commencé à s'assembler chaque soir pour la prière, pendant une heure, hein, et ils l'ont fait pendant un bon petit moment, vous savez. Et ça a duré, et l'Église était toujours dans cette période de stagnation, mais le Seigneur a décidé de répondre à cette prière-là. Et aujourd'hui, cette Église-là vient de s'amalgamer à une autre Église qui, à l'époque, on n'aurait pas osé appeler ça une Église. C'est devenu une Église, pratiquement une Église réformée baptiste. Il y a eu cette belle amalgame, et notre petite Église à Rouyn-Noranda est en feu, et tout le monde est extrêmement heureux de la situation qui s'y déroule présentement. Que ceux qui sont encore en vie affermissent leur vie, de dire le Seigneur à l'Église de Sardes. Les morts sont morts, laissez les morts enterrer leurs morts. Mais vous, ceux qui ont encore la vie, affermissez ce que vous avez, affermissez ce que vous êtes. À Québec, nous avons commencé depuis je ne sais pas combien de mois, le vendredi matin, une petite prière d'une heure à 10h30. Alors, Diane et moi, on s'est dit, on va être au moins deux. À moins que Diane ne vienne pas ou que moi j'aille pas. On va être au moins deux pour commencer. Mais on est très bénis. On est généralement entre 9 et 11. Bon, pour une église de la grosseur de Québec, c'est pas énorme, mais c'est quand même un départ. Et on a des moments de prière absolument extraordinaires. Et on sait que ce n'est pas un investissement perdu. La prière, c'est riche. Et on sait que le Seigneur nous entend, que le Seigneur nous écoute, et on peut s'attendre à de grandes choses de notre Dieu, parce que c'est un grand Dieu qui a choisi d'opérer par les moyens de grâce. Pourquoi est-ce que Dieu nous a donné la prière, vous pensez? Parce que le même Dieu qui a décrété la fin, il faut que je me tienne devant le microphone, hein, a aussi décrété les moyens, vous voyez. Pourquoi est-ce que Dieu a décrété l'évangélisation? On le voit dans Romains 10. Comment viendront-ils s'ils n'entendent pas parler du Seigneur? Maintenant, comment vont-ils n'entendre parler si personne n'est envoyé? C'est la grosse logique biblique, quoi. Alors, le même Dieu qui a décrété la fin a aussi décrété les moyens. Et la prière, c'est un décret. C'est un moyen de grâce extraordinaire pour aller chercher la grâce de Dieu tout là-haut et la faire descendre sur nous. Troisièmement, donc, où est-ce que je suis rendu? Je m'excuse, je suis complètement égaré. À la hauteur des attentes. Ah oui, c'était l'autre côté, la page 5 de 27. Vous n'avez pas réagi, merci. Rappelle-toi donc comment tu as entendu et reçu la parole de Dieu. C'est intéressant, la question sémantique est importante ici. La question n'est pas quoi, mais comment. La question n'est pas rappelle-toi ce que tu as reçu. Mais rappelle-toi, comment tu l'as reçu? Quelle était ta posture? Quelle était ta réaction quand tu as reçu cette parole-là? Quel était ton agir, ton enthousiasme subi? Quel était le changement que ça a opéré dans ta vie? Alors, rappelle-toi comment tu as reçu la parole. Le retour à cet enthousiasme premier, à cet amour du Sauveur, ce zèle de vivre pour lui et de le proclamer. Toujours un danger de mettre nos pantoufles de la retraite un peu trop tôt. Hein? Il peut y avoir un ralentissement, mais un arrêt, c'est autre chose. Hein? Alors, il y a réception et écoute de la parole. Il y a un élément de croissance ici, et ça vaut pour tous les éléments de nos vies. Quel que soit notre âge, on est censé croître, continuer de croître dans la connaissance du Seigneur, dans la connaissance de sa parole, et dans ce que cette parole produit en nous. Se rappeler. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le Seigneur nous a donné des rites de rappel. Pourquoi est-ce que le Seigneur nous a donné des rites de rappel? Parce que nous sommes des auditeurs oubliés. On a la communion. Et je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que la communion, c'est un sacrement qu'on devrait prendre à chaque semaine, comme les disciples le faisaient à l'époque. Chaque fois qu'on se réunit, on prend le repas du Seigneur. Bon, pour des raisons pratico-pratiques, on a mis ça une fois le mois, là. Mais hein, on sait que c'est quelque chose qui devrait se prendre une fois la semaine. Ça nous rappelle, et on a besoin de se laisser rappeler. Non seulement ça nous rappelle ce que le Seigneur a fait, mais ça nous rappelle qui nous sommes. Comme corps du Seigneur appartenant à un même pain. Ma belle-sœur m'a fait parvenir une blague que j'ai trouvée fort amusante la semaine dernière. C'est une femme qui sort de sa baignoire et qui dit à son mari, pardon, je vais la rire avant, là. Alors, qui dit à son mari, je me suis regardée dans le miroir en sortant de la baignoire et je suis affreuse. Fais-moi un compliment qui me rende le moral. Et le mari de lui répondre, ta vue est encore parfaite. Enfin, se rappeler, c'est ça le point, il faut se rappeler. Quatrièmement, garde-la, cette parole-là, et repens-toi. On parle bien sûr de la parole ici. On parle, comme on dit en théologie réformée, de penser, dites-le après moi, avant moi, de penser les pensées de Dieu après lui. Amen. Connaissance analogique. Dieu a une connaissance analytique. Dieu connaît tout subitement, d'un seul moment. Nous, nous avons une connaissance analogique après Dieu. Alors, il y a continuité puis il y a discontinuité. Mais si on veut être dans la vérité, il faut penser les pensées de Dieu après lui. Enfin, on fait de la théologie. On viendra à cela une autre fois. Donc, penser les pensées de Dieu après lui, en effet. Et je suis encore perdu dans ma place. Quatrième point, OK. Pensez. 2 Timothée 3, 14, 16. « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. » C'est quelque chose, la parole de Dieu. Ce n'est pas les écrivains qui ont été inspirés, c'est la parole. C'est la parole qui a été théopneustée, si vous me passez l'expression, qui a été soufflée hors de Dieu. Right? Hein? Et c'est une parole puissante. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur a donné à Ézéchiel le commandement de la prêcher, cette parole-là. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu fait l'œuvre de Dieu. Lorsqu'Ézéchiel s'est présenté dans ce grand territoire, n'est-ce pas, hein, dans cette vallée, où il n'y avait que des ossements. Et ce n'était pas des ossements frais, là. Des ossements, tout était démoli, et c'était la mort absolue et certaine, et ils étaient très nombreux, pas un ne respirait, pas un ne bougeait, il n'y avait aucun signe de vie là-dedans. Et qu'est-ce que le Seigneur lui dit face à cette scène particulière? Il lui dit de prêcher la parole. Face à cette scène de corps décomposés, symbolique, de la situation à Sardes et ailleurs. Dieu dit au prophète, chapitre 37, verset 4, il me dit, « Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. » Et au verset 10, « Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. » Bien sûr, il est question ici d'un renouvellement du peuple d'Israël, mais je pense que ça s'applique aux situations où les églises sont mortes. Et ça m'amène à mon troisième point, la vie ou la bénédiction d'une église. Verset 4, on l'a vu un petit peu tantôt, « Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. » C'est beau ces mots-là, « ils en sont dignes ». Ici, nous avons les vrais croyants. Ceux qui ne sont pas tombés là, sous l'influence du monde, et qui se sont abstenus des péchés grossiers dans lesquels un chrétien nominal tombe. Les péchés grossiers dans lesquels un chrétien nominal tombe. La vigilance, un passage obligé. Un chrétien nominal ne résistera pas. On a besoin vraiment de l'esprit en plénitude dans nos vies pour mener une vie chrétienne absolument décente. Lorsque le Seigneur dit qu'ils sont dignes, il n'est pas en train de dire qu'ils sont parfaits, qu'ils sont sans péché et qu'ils ont mérité leur salut par les œuvres. Pas du tout. C'est simplement des gens qui vivaient un style de vie de fidélité biblique et qui, chaque jour, nettoyaient leurs péchés dans une confession et une foi au Christ Jésus. 1 Jean 1,9 « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Et une fois qu'on a dit cela, il ne faut pas se bomber le torse. « Si nous confessons nos péchés, combien de péchés que nous commettons sommes-nous conscients de? » Ça se dit mal, ça, hein? « De combien de péchés que nous commettons sommes-nous conscients? » Très, très peu, hein? David disait, pardonne-moi même ceux que j'ignore. On en ignore bien plus qu'on en confesse, mais il y a une réalité ici quand même, de vouloir marcher avec le Seigneur et lorsque nous sommes conscients, d'amener ces péchés-là devant lui. Paul dira aux Éphésiens, chapitre 4, versets 1 et 2, « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité, avec douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Vous efforçant, ça n'arrive pas de Ça n'arrive pas tout seul. Il faut s'efforcer de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Donc, cette dignité-là, c'est la réponse de gratitude et de consécration à Dieu pour la nouvelle vie en Christ Jésus. C'est l'œuvre parfaite, c'est la pléroïe qu'on a vue tantôt, dont il était question au verset 2, vous voyez. Et tout au long de ces lettres-là, de ces deux chapitres-là de l'Apocalypse, nous voyons Jésus cherchant à donner des louanges, à reconnaître quelque chose de bon en raison de son amour pour son peuple. Même dans l'église morte de Sardes, il est parvenu à trouver un reste fidèle qu'il appelle les dignes. L'église est morte, mais à travers eux, il y a un petit reste qui sont demeurés dignes. Il y aura bien sûr un jugement sévère, un jugement éternel pour les non-repentants. Mais à ceux qui sont dignes, le Christ leur fait trois belles promesses. Premièrement, au verset 5, « Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. » Ouh, quelle belle référence à la pureté de la justification que nous avons par le sang du Christ Jésus. Et ça nous rappelle la robe baptismale, n'est-ce pas? Le symbole même de notre union avec le Christ. Parce que le baptême, c'est cela, nous devenons une même plante avec le Christ. Deuxièmement, toujours au verset 5, « Je n'effacerai pas son nom du livre de la vie ». Nous avons ici une des plus belles insistances sur la pérennité du salut. « Je n'effacerai pas son nom du livre de la vie. » Jean chapitre 10, verset 27-28 nous dit « Mes brebis entendent ma voix. » Ah, moi je l'aime ce verbe-là, je les connais. Hein, je suis né avec, naître avec, connaître. « Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. » Troisièmement, verset 5, « Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » On en a parlé un petit peu tantôt. Nous avons un merveilleux avocat auprès du Père qui nous dit que si nous confessons son nom devant les hommes, il en fera de même devant son Père qui est dans les cieux. Maintenant, permettez-moi une dernière application, parce qu'il faut vraiment être au clair. Hein? Est-ce que vous avez une apparence de vie, alors qu'en réalité, vous êtes mort? Y a-t-il quelque chose dans votre expérience qui ferait dire à Jésus, « Réveille-toi! » Y a-t-il quelque part dans ton mur de vie, un endroit où il n'y a pas de garde, ouvrant ainsi la porte aux attaques? « Ah, je surveille ici, mais ici, bon. » Y a-t-il des choses dans ta vie qui ont l'apparence de la piété, mais que Jésus sait être simplement une façade? On est bon là-dedans, hein? On est manipulateur, hein? On est bon, hein? Mais ta seule espérance, c'est celle que Jésus offre à l'Église de Sardes. Te repentir et te souvenir. Parce que Dieu a une provision pleinement suffisante pour tes péchés. Peut-être que tu sens ton incapacité à vivre les voies de l'Évangile. C'est absolument normal. Il n'y a personne qui se sent capable de vivre les voies de l'Évangile. Hein? Personne ne peut le faire par ses propres forces. Il faut se rappeler comment Jésus se présente lui-même à l'Église de Sardes, celui qui a les sept esprits. Dans nos faiblesses, dans nos manquements, dans nos chutes, on revient au Seigneur en toute humilité, on continue notre marche avec lui. Sept fois le juste tombe, sept fois il se relève. Luc chapitre 11, verset 13 nous dit, « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit, alléluia, le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. » Si présentement tu te sens mort ou moribond, en train de mourir, hein, souviens-toi de cette vérité fondamentale qu'on retrouve en Jean chapitre 6, verset 63. C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Il faut revenir au Christ, il faut revenir à sa parole. Peut-être et même probablement que tu te sens très intimidé quand vient le temps de confesser le bon nom de Jésus devant les hommes, par crainte des conséquences qui suivront. Voici ce que dit le Seigneur. Luc chapitre 12, verset 11-12. « Ne t'inquiète pas de la manière dont tu te défendras, ni de ce que tu diras. » Parce que le Seigneur va nous pourvoir tout ce dont nous avons besoin, nous est-il rappelé dans le même texte. Bon, je vous mets ça là, un peu simpliste, mais je pense que c'est très illustrateur d'une très belle réalité, parce qu'en bout de ligne, ça demeure la réalité. J'aimerais terminer avec cette parole. À tous ceux qui lui font confiance, qui investissent leur foi en lui, Jésus donne la puissance du Saint-Esprit pour faire tout ce qu'il nous appelle à faire. Jésus donne la puissance du Saint-Esprit pour faire tout ce qu'il nous appelle à faire. Vous souvenez-vous du grand débat, vous n'étiez pas là, là, mais vous avez peut-être eu là-dessus le grand débat entre Pélage et Augustin. Qu'est-ce qui avait l'heure de mettre Pélage en colère? C'est quand Augustin disait à Dieu, « Donne ce que tu demandes et ordonne ce que tu veux. » Ça, Pélage était incapable d'entendre cela parce qu'il était convaincu qu'on avait conservé la capacité de faire le bien. Alors, donne ce que tu commandes et commande ce que tu veux. Ben, c'est ça la vie chrétienne, somme toute. Le Seigneur nous donne. Il y a des luttes, il y a des difficultés, il y a des chutes, mais il y a une persévérance dans les foi de notre Dieu. Sois vigilant et affermi. Amen. Pas fini. La deuxième commence là. On va prier. Seigneur, on te remercie pour cette parole. Une parole d'une grande richesse. Nous avons déjà été morts, tous et toutes, autant que nous sommes. Mais pour plusieurs parmi nous, et j'espère tous et toutes qui sont ici présentes, pour plusieurs d'entre nous, tu nous as donné la vie. Et tu nous as donné aussi les moyens de grâce pour que cette vie puisse croître, ô Dieu. Et en même temps, malgré que tu nous donnes l'assurance que nul ne nous ravira de ta main, tu nous exhortes à croître et à grandir et à affermir notre vie chrétienne, à ne jamais faire preuve d'indifférence ou faire preuve de légèreté, mais bien au contraire, à toujours désirer affermir nos voies en toi. Seigneur, nous savons que dans nos églises, et ta parole en parle abondamment. Et il y a bien sûr de l'ivraie et du blé, ou du blé et de l'ivraie. Nous savons que l'ennemi a toujours ses agents, et ses agents ne sont pas toujours facilement démasquables non plus. Nous savons qu'il y a des professions de foi aussi qui sont des professions temporaires, qui se terminent par une mort constatée. On le voit dans la parabole des différentes terres. Donne-nous de veiller, de t'avoir comme modèle au Seigneur, de marcher près de toi et d'être vigilant dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons, à ta plus grande gloire en Christ Jésus. Amen. Amen.